je pourrais-tu investir dans un fer, un REER ou un CELI?
Ben oui, au fond, on a ce qu'il faut pour votre retraite.
Puis dans le fond, quand vous dites « au fond »,
c'est « au fond de solidarité FTQ ». Visitez fondsftq.com pour lire les prospectus et découvrir notre offre complète de produits d'épargne.
Tombez en amour avec la truffe italienne chez Pacini. Essayez notre tartare de bœuf et truffe, goûtez notre pizza truffe et champignons et savourez notre mafaldina au beurre de truffe pour un temps limité seulement. Restaurant Pacini Le Bourgneuf et Pacini Sainte-Foy.
Le samedi 18 novembre, Laurier Québec célèbre l'arrivée du Père Noël. Dès 9h30, animation, spectacle musical avec vos princesses préférées, surprise pour les enfants, rencontre avec le Père Noël et plus encore. Détails à laurierquebec.com.
T'as le goût d'une bière bien houblonnée? Check. Avec de vives notes d'agrumes? Check. Puis une amertume tranchante? Check. Tu peux checker pour l'amère IPA de Brasseur de Montréal dans un dep ou une épicerie près de chez toi. Brasseur de Montréal, on est dans le coin. Pour les 18 ans et plus.
Boulevard 102, la radio de Québec pertinente.
Écoutez ce qui se passe et ce qui se brasse dans l'actualité. Pendant ce temps-là, je vais aller voir ce qui se brasse sur Pornhub. Oh, ça brasse des affaires!
Qui vous rapporte la nouvelle de façon objective.
C'est la preuve irrévocable de l'existence du loup-garou en audio.
Si tu crois que
des invités percutants.
Ben oui, petit coup, c'est important. Oh, oui. Commence, le martel. J'aurais peut-être un manager.
Une radio intellectuelle.
Moi, je suis scorpion.
Je suis capricorne.
Je suis vierge. Ça, on savait.
Facile.
Ben, une radio spéciale. Boulevard 102.1, la radio spéciale.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir. Boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Salut, bon mercredi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 101 à Québec. J'espère que vous avez passé une belle journée, quoique nuageuse, ça a relativement bien été. Pas trop de précipitations de pluie ou encore de neige. Moi, tant que c'est comme ça, ça me va. Maximum de 6 pour aujourd'hui. On l'a presque atteint, je pense qu'on a pris le 5 degrés. Et pour ce qui est de ce soir, ben c'est généralement nuageux, avec un minimum de plus 1 degré. Puis ça continue de se réchauffer, là. Jeudi, demain, ce sera un ciel dégagé, maximum de 7 degrés. Et vendredi, ce sera de la pluie, mais on aura un maximum de 8 degrés. Pour ce qui est du week-end, peut-être des précipitations pour samedi, maximum de plus 3 degrés. Et dimanche, ce sera 40% de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 1 degré. Ce soir, on parle du merveilleux monde de l'automobile avec un gars qui est en voyage. On va dire, non, mission d'affaires, comme disait notre maire de la ville de Québec. Il est en mission d'affaires au salon de l'auto de Los Angeles. Son nom, c'est Samuel Tremblay-Michaud, que vous aimez bien entendre sur les ondes de Boulevard. Comment ça va, mon ami?
Ça va très bien, ça va très bien. C'est une mission d'affaires, mais qui n'implique pas aucun argent public.
Non, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas d'argent public qui a été dépensé pour ta mission d'affaires. Mais écœure-nous donc avec ton bonheur. Comment tu vis ton voyage, ta mission d'affaires à Los Angeles? Qu'est-ce que tu as constaté quand tu es arrivé là? C'était-tu ton premier voyage, ton deuxième, ton troisième? Qu'est-ce qui t'impressionne de cette ville-là?
J'ai voyagé quand même beaucoup les États-Unis en road trip. J'aime ça faire des road trips. C'est quelque chose que j'aime bien faire, mais tu sais, comme en Mazda 5 2008 avec un matelas gonflable dans le coffre, là, pas en gros luxe, là. Mais oui, j'ai voyagé beaucoup les États-Unis. Puis j'étais jamais allé à Los Angeles, qui est vraiment complètement à l'ouest, dans le sud, à l'ouest complètement. C'est une ville gigantesque. Ça m'a surpris par sa grosseur. Puis je vous dirais aussi que je suis surpris de voir à quel point il n'y a pas tant de monde dans les rues. C'est tellement gros, il n'y a pas tant de monde, les gens sont tous dans leur char. Il y a beaucoup de voitures ici, là. C'est impressionnant. Tu sais, le trafic, là, ça, c'est du trafic. Là on est dans un autre niveau de trafic. Là. Les gens conduisent de manière cavalière, ça se pousse, ça roule vite, ça klaxonne. Il y a des autoroutes de 8 voies plein de chars. C'est assez impressionnant, ce côté-là. Automobile, à quel point la voiture, elle a une place importante en Californie. Là. Je ne l'avais pas mesuré à ce point-là.
Ah ouais. Hey, moi, ce qui m'avait marqué, parce que j'y étais à moto à Los Angeles et j'ai fait la 66 au grand complet. Puis, tu sais, de passer du désert où il fait genre 40 avec un soleil qui te tape dessus à une ville où, quand tu regardes ça dans les films, ça a l'air d'être comme le paradis sur Terre. Il faisait autour de 13-14 degrés. Je pense que c'était au mois de juin. Tu sais, j'étais ses pins, mon homme, puis je me disais, mais comment Pamela Anderson a réussi à filmer autant d'alertes à Malibu? Il fait frais que le diable pour me faire dire finalement que la plage où je suis arrivé, c'était pas l'endroit où il avait fait la série Alerte à Malibu. Là. C'était pas la plage de Malibu, il l'avait fait comme un peu plus bas. Là. Fait que ça expliquait bien des affaires parce que j'étais au grand vent, madame, à 13 degrés, puis je me disais, Pamela aurait jamais toffé. Là. C'est clair qu'elle aurait jamais toffé là. Là.
Non, puis c'est surprenant, puis je te rejoins, moi, c'est pas chaud, admettons, incroyablement présentement. Je me plains pas, il fait comme 24, là, tu sais, il fait beau, là. Mais tu sais, je m'attendais à, comme dans le bas du Tennessee, des fois, on parle du 32, là, ouais. Des grosses températures, tu sais. On n'est pas là, là, tu sais, on est dans une température qui est clémente, tu sais, je suis confortable. Puis moi, j'étais un bon bonhomme, j'ai un bon gabarit, puis j'ai facilement chaud, mais là, je suis confortable. Fait que ça vous donne l'idée, admettons, on est quand même, c'est frisqué dehors pour certains, correct pour d'autres. Puis peut-être chaud pour certains, mais moi, pour moi, c'est juste correct. C'est bien.
Puis les voitures, ça peut ressembler à quoi dans cette ville-là? Est-ce que c'est toutes des voitures qui datent de 2022, 2023, ou t'as des vidanges, tu sais, des années 80 qui sont pas rouillées puis qui fonctionnent encore très bien?
Écoute, t'as mis le doigt sur deux sujets vraiment intéressants. L'opulence des voitures ici est impressionnante. J'ai jamais vu autant de Audi e-tron GT, l'espèce de voiture sport électrique du constructeur allemand, sur la route. J'en ai vu à peu près 15 différentes jusqu'à présent. Puis, tu sais, au Québec, si on en voit une, c'est un événement. Là. Tu prends des photos, puis c'est quelque chose de rare. Là, hier, j'ai eu la chance aussi d'aller dans le quartier Bel Air, qui est un peu, pour les amateurs de Grand Theft Auto, là, c'est la section riche du jeu. Là, tu sais, quand on est comme des, c'est pareil, là, les espèces de routes en S qui montent super escarpées, les grandes maisons, les portes pour protéger les demeures. C'était impressionnant de voir ça. Puis, tu sais, tous les fois qu'on montait un peu plus haut, il y avait des voitures de plus en plus exclusives. J'ai vu des Maybach d'édition spéciale faites sur mesure, des Porsche à ne plus les compter. Mais en contrepartie, moi, c'est pas ça qui m'impressionnait le plus. C'est de voir un Toyota Tacoma 95 tellement propre que ça n'est fâche. Ouais. T'sais, propre là, à un niveau de... Je peux pas croire qu'on a fait mal autant que ça à des véhicules dans notre pays, parce que pour vrai, ici, ils roulent, ils sont nickel, ils n'ont pas de rouille, ils sont fonctionnels encore, c'est des bonnes mécaniques, on le sait. Puis souvent, qu'est-ce qu'ils ont tué chez nous au Québec? Ben, c'est la rouille. On a fini par les jeter, ces véhicules-là, parce qu'ils ne marchaient plus bien à cause de la rouille. Mais quand tu enlèves ce facteur-là, c'est des tanks, là, c'est intuable, ces produits-là. Fait que de se promener dans les rues, de voir... hier, j'ai vu un Kia Borrego. Je ne sais pas si tu connais, Yannick, c'est une espèce de gros VUS que Kia avait sorti à l'époque où il n'y avait pas encore le Telluride, comme aujourd'hui on connaît dans leur alignement. Il y avait le Borrego, qui est une espèce de gros VUS V8 qui a eu un certain succès mitigé au Canada, je vous dirais. Là, ça n'a pas été un grand succès, mais ici, ça s'est vendu quand même bien aux États-Unis. Puis, tu sais, nous, on les a plus vraiment, ces véhicules-là. Ils ont mal vieilli, là, ils ont disparu un peu dans le catalogue, mais ici, là, c'est comme si j'avais un Telluride juste de l'ancienne génération. Là. C'est impressionnant de voir à quel point les produits sont bien conservés. Je suis jaloux, honnêtement. Là, ça me donne envie de prendre l'avion, de me chercher un char ici, de le remonter chez nous.
Ouais. Mais nous, c'est carrément ça. C'est le sel qu'on épand sur les routes pour essayer de fondre la glace qui fait en sorte que ça s'accumule sur nos véhicules puis ça fait rouiller nos véhicules. Mais oui, c'est ce qui me marque aux États-Unis, c'est que tu arrives dans le Maine, il y a des chars des années 80 qui ont de l'air neufs encore. Tu te dis, mais d'où est-ce que ça sort?
J'ai vraiment envie de me poser la question aussi sur les fameux abrasifs qu'on choisit. Tu sais, je comprends qu'il fait froid chez nous, fait que souvent, il y a des abrasifs qui ne fonctionnent pas. Il fait trop froid à l'extérieur pour que l'abrasif puisse bien fonctionner. Fait qu'on n'a pas chaud d'avoir recours à certains sels, effectivement, pour réussir à faire fondre la glace. Mais tu sais, je me dis, on est rentré en 2023, on est quand même avancé technologiquement dans l'automobile. Les pneus de voiture n'ont jamais été aussi performants qu'aujourd'hui. On a des voitures qui sont censés être meilleurs à la corrosion malgré les nombreux problèmes de peinture qu'on rencontre actuellement. Là. Mais tu sais, on est censé avoir des outils autour de nous pour nous permettre d'affronter peut-être mieux l'hiver, mais on applique encore la bonne vieille recette d'abrasif qu'on connaît qui tue les véhicules. Donc, Je me demande toujours un peu pourquoi on continue ça sur cette lignée-là. Est-ce qu'on aurait d'autres options? Pourrais-tu envisager d'autres choses? Ben, c'est des questions que j'aimerais poser, mais pour l'instant, on n'a pas ces réponses-là.
Je sais pas si tu écoutais la radio dans les années 80 à Québec, Sam, là, mais moi, je me souviens d'un gros moustachu qui avait une grosse voix. Ici, André Arthur, qui disait à tout le monde, à qui voulait l'entendre, si vous voulez cesser de faire... rouiller le pont Pierre-Laporte, si vous voulez cesser de faire rouiller le pont de Québec, c'est le bon vieux jus de betterave qui existe puis qui fait la job. Et à chaque fois qu'il disait ça, je me disais, mais tu sais, s'il le dit, c'est parce que ça... Les autres doivent l'avoir essayé, tu sais. Et je sais qu'en Beauce, il y a deux ou trois endroits sur le dessus des viaducs qu'on utilise ce jus de betterave-là. Puis ça fonctionne, ça fait le travail. Fait que je sais pas, peut-être qu'on s'est arrêté au sel, ça doit être payant quelque part, là. Puis on met ça, même si ça scrape les chars.
J'ai pas envie de parler de, mettons, il y a une business de sel qui existe, mais il y a clairement une business de sel qui existe quelque part, là. Tu sais, j'imagine qu'il y a des gens quelque part pour qui c'est avantageux qu'on reste sur le sel, mais ça rouille nos autos. Puis en tant que passionné d'auto, c'est sûr que ça me fait mal au cœur quand je viens ici puis je vois... J'ai vu un Hyundai Accent, là, genre un 2006-2008. Tu sais, rien de fancy.
9 999 $ à l'achat.
Comme ce modèle-là. Ce modèle-là, tu sais, mais tellement propre. Puis tu sais, au bout de l'année, c'était pas des mauvaises mécaniques. Quand on les entretenait bien, ça faisait la job, tu sais. Puis c'était correct. Mais aujourd'hui, tu sais, je n'ai croisé un dans la rue. Puis j'étais comme... C'est fâchant de voir à quel point nous, on en a jeté de ces véhicules-là parce qu'ils ont mouru à cause de l'abrasif. Puis qu'aujourd'hui, tu en vois ici qui sont encore en parfait état. Puis tu te dis, ben tu sais, dans l'ère où est-ce que l'automobile coûte tellement cher, est-ce qu'on aurait pu trouver une solution avec ces véhicules-là, justement, s'ils étaient encore en vie pour faire sauver de l'argent aux gens et être capable encore de se déplacer? Je pense que oui, tu sais.
Ben
fait
oui.
Que c'est de valeur de voir ça, mais en même temps, ça fait partie du voyage. Là. C'est culturel.
Puis en même temps, eux autres, c'est vrai que leur véhicule n'a jamais sorti l'hiver. T'sais, moi, je suis en train de magasiner un véhicule pour cet hiver, puis je regarde sur Marketplace, puis il y a des gens qui disent « Ce véhicule-là n'a jamais sorti l'hiver, il est posé, c'est les quatre roues dans la neige. » Je vais te faire un deal à toi, mon ami, que je ferais même pas à mon propre beau-frère. Mais toi, tu as de l'air sympathique, va te faire un gros deal. Ce véhicule-là, il appartenait à une vieille dame. Écoute, elle se promenait un peu avec ça, là. Elle laissait ça dans son entrée, puis des fois, elle faisait le tour de la rue. Ah, je te dis, j'en vois des affaires actuellement sur Marketplace, là, puis je me dis, crif, ça a donc bien augmenté le prix du véhicule automobile usagé, ça n'a pas de bon sens. Dans le temps, je m'achetais un véhicule d'hiver, ça me coûtait, quoi, 1 000 $, 2 000 $, puis ça faisait l'affaire, je mettais 4 heures d'hiver là-dessus, puis c'était bien correct. Là, tu t'en sors pas avec quelque chose qui a du bon sens en bas de 5, 6, 7 000 $, là.
Ah non, puis j'avais écrit un papier là-dessus sur le site de rpmweb.ca pour parler justement de ces véhicules-là dans le magasinage. Moi, j'aime ça, changer de voiture. Puis j'aime ça avoir une voiture comme principale que je garde longtemps, là, qui est un peu comme ma valeur sûre. J'aime ça des fois m'acheter des voitures usagées juste pour en essayer puis avoir la chance de mettre la main sur d'autres produits puis de faire un roulement dans le fond, t'sais. Vivre des marques puis de voir un peu c'est quoi leur problème, réparer les bobos. Puis quand je fais l'exercice, aujourd'hui, de faire ça, il n'y a en aucun cas de moyen de faire des sous encore. Quand je parle de faire des sous, c'est de ne pas en perdre. T'sais, à l'époque, quand je m'achetais une voiture à 800, 1 000 $, je me disais, au pire, je vais la vendre 900, 800, puis j'aurais perdu un peu. Puis, c'est pas la fin du monde. Je l'aurais utilisé, puis ça aurait été correct. Aujourd'hui, tu sais, comme tu viens de dire, il faut que tu mettes un 3, 4 000 pour avoir une base de véhicule qui se tient, mais qui n'est pas sans réparation. Ah, j'ai fait l'exercice dernièrement. J'ai acheté une voiture, elle m'a coûté 1 800 $. J'ai dû mettre de l'argent dessus pour réparer. Mais je savais en l'achetant. Là. Fait que les breaks à l'arrière étaient finis. Bon, changer les breaks, changer les galipers, ça coûte pas mal plus cher. Change le linkit en avant-gauche, change le bushing de roue, change une sonde à l'huile dans le moteur, change une autre partie de la valve. Puis là, tu es toujours en train de faire des petites réparations qui, au bout de la ligne, l'auto me revient à 3 000. T'sais, à la fin de l'histoire, c'est 3 000 $ que j'ai mis sur ce véhicule-là. Puis je me dis, dans une autre époque, j'aurais payé ça 800 $ avec les mêmes réparations. c'est fou de voir ça. Il faut faire attention, hein, ce marché-là, il est dangereux pour les portefeuilles, mais aussi pour les histoires d'horreur qu'on peut entendre. Je vois passer, il y a des émissions à télé là, de juges là, qui jugent des gens qui ont comme, ils achètent des voitures sur Marketplace, puis comme, ça va de bon sens. Puis tu vois de plus en plus des histoires de même de gens qui se ramassent à acheter des voitures de gens moins honnêtes, puis là, ils se ramassent avec des vrais vidanges, puis là, ça leur coûte cher, puis là, ils sont pas des plus grosses réparations. Je pense que là, la prudence est de mise, d'autant plus qu'actuellement, on sait aussi que les Canadiens remettent plus que jamais les clés de leur voiture neuve à leur concessionnaire. Fait que là, on a un espèce de phénomène qui se crée où les gens qui se sont endettés un peu trop avec leur voiture neuve remettent des clés en faisant faillite à leur concessionnaire. Puis là, ces gens-là vont aussi se retourner vers des véhicules. Puis là, je suis en train de dire que c'est 3-4 personnes, c'est 29 % d'augmentation dans la dernière année des Canadiens qui ont remis les clés à leur concessionnaire. C'est énorme comme augmentation. C'est presque un tiers de la population. Là. Fait que c'est à travers le Canada, là, okay. Mais c'est beaucoup de gens.
Mais juste être sûr des chiffres, là, tu me dis, est-ce que c'est 29 % des gens qui avaient un véhicule usagé qu'ils ont rapporté ou encore c'est 29 % d'augmentation?
29 % d'augmentation, okay, mais on arrive avec un pourcentage qui est proche du tiers quand on calcule la globalité de la patente. Et ça, c'est une augmentation dans la dernière année. Dans le fond, ce qu'on calcule, c'est que dans les 90 jours de délinquance de paiement, là, on doit remettre les clés du paiement, du véhicule. Fait, ce que ça fait, c'est que si, exemple, pendant 3 mois, on n'arrive pas à faire le paiement du véhicule, les gens ont l'option de remettre le véhicule au concessionnaire. Il y a des lois canadiennes qui nous protègent pour ça. Les gens, il faut qu'ils déclarent faillite puis peuvent remettre les véhicules au concessionnaire. Donc, c'est 29 % d'augmentation. Ça, c'est bien important de le dire. On s'approche du tiers, on n'est pas là. Le chiffre exact, c'est Equifax qui l'a, l'entreprise de surveillance bancaire. Eux autres, c'est eux qui ont fait l'étude sur la remise, mais ce qu'on voit dans le fond, c'est que l'augmentation est assez fulgurante. C'est 29 %, c'est un gros chiffre d'augmentation. Maintenant, ce que ça va amener, assurément, bien, c'est de la pression sur le domaine de l'usager. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne veulent plus de voiture, mais ils vont en avoir besoin d'une autre. Fait que là, on voit que le marché de l'usager risque encore d'avoir une autre pression supplémentaire. Je pense pas que c'est un mouvement assez grand pour dire qu'on va le vivre de manière très difficile, mais ça vaut juste de faire attention. Toujours ça, un peu le réflexe que j'ai envie de vous dire. Des voitures, c'est pas un bien qui prend de la valeur, même si dans la COVID, on a vu des voitures gagner en valeur. Généralement, ça perd de la valeur, une voiture. Fait que je pense que c'est toujours important d'être prudent sur le prix qu'on achète, sur l'état dans lequel on achète notre véhicule. C'est les deux grands points là, qu'il faut vraiment faire attention actuellement.
Okay. Mais as-tu l'impression que comme il va y avoir un inventaire de véhicules usagés un peu plus majeur, en fait, parce qu'il y a plein de retours, as-tu l'impression que ça va faire descendre les prix de l'usager?
Ça, assurément dans une catégorie, mais ça va être la catégorie des usagers chers. Moi, j'imagine que les usagers qui ont déjà des bonnes valeurs de revente, des voitures qui ne sont pas trop vieilles, qui n'ont pas trop de kilométrage, les véhicules qui se vendent déjà assez dispendieux dans l'usager, eux, effectivement, ça se peut qu'on voit une compétition. Là, que, tu sais, je sais pas, il y a deux Honda Accord au lieu d'en avoir juste zéro. Il y en a deux sur le marché, ils ont à peu près le même millage, ils ont à peu près la même couleur, la même année. On risque de voir arriver des véhicules comme ça, mais dans le marché dans lequel toi et moi, on navigue beaucoup, les minounes, le marché des voitures un peu moins chères, là, je pense que la pression va rester élevée quand même. Fait que c'est normal, là, souvent, les gens vont revoir leurs finances, puis tu sais, la décision est assez normale au bout de la ligne. Là. Les gens se disent, moi, avant de laisser ma maison, je vais laisser mon auto. Là, t'sais. C'est clairement ça qui va se passer. Mais souvent, on ne laisse pas une voiture à 3 000 au concessionnaire. On laisse des voitures qui ont encore des gros paiements dessus. Fait que c'est pour ça que je pense que ça ne va pas diminuer l'entièreté de l'usager, mais une catégorie, oui.
Parfait. Fais-nous rêver un peu. T'es au salon de l'auto de Los Angeles. Est-ce que c'est le plus gros salon de l'auto au sud des États-Unis?
Assurément. Ouais. C'est un des plus gros, même j'ai envie de dire, c'est un des plus gros en Amérique du Nord maintenant, le salon de l'auto de Los Angeles. On a eu des salons de l'auto qui historiquement à Détroit qui étaient de grande envergure, le salon de l'auto de New York aussi qui est un bon gros salon de l'auto. Nous, de notre côté, on a Toronto, Montréal, malgré qu'il a perdu pas mal de plumes dans les dernières années, là. Même que j'ai envie de dire que Québec était quasiment plus gros l'année passée. Mais tu sais, clairement, dans les salons de l'auto, LA, c'est un des plus gros, assurément, si ce n'est pas le plus gros. Tout le monde est là. Tous les constructeurs sont là. Les constructeurs haut de gamme aussi sont là. Comme je disais un petit peu plus tôt, la culture de l'automobile est très forte à LA. On a vraiment beaucoup de voitures dans le chemin, puis les gens consomment énormément de véhicules. Il y a de l'argent à LA. Fait que où est-ce qu'il y a de l'argent? Il y a de l'automobile. Et clairement, c'est un énorme salon. Le pavillon est gigantesque. J'aurai jamais le temps de faire le tour parce que malheureusement, j'ai rien qu'accès une journée au salon avec mes accréditations de médias. Et je peux juste y aller une journée. Qui est demain. Donc, demain, je vais passer ma journée là-bas. Mais en une journée, je n'aurai probablement pas le temps de faire l'entièreté du salon. Je vais me concentrer sur certains produits que je sais qu'on va avoir au Québec, des produits que je sais qui intéressent aussi les gens au Québec. Fait que je vais falloir que je me concentre sur certains produits parce que je n'aurai pas le temps de faire le tour. Là, c'est gigantesque. Je n'ai pas de mots pour vous le dire, là, mais c'est gros comme 2 fois, 3, 4, 6, 12 fois les terrains de football de l'Université Laval. Là, c'est un énorme complexe. Là, c'est impressionnant. Puis il y a 2 sections, ce complexe-là. Pour vrai, il y a moyen de virer fou. Je pense que tu achètes une passe. Tu y vas 3, 4 jours, puis là, tu fais le tour. Et une journée, là, c'est quasiment impossible.
Ouais, j'imagine que c'est un salon aussi où tu peux rencontrer des grandes personnalités. Tu es à Los Angeles, tu es dans place pour rencontrer des personnalités.
c'est souvent là que les constructeurs amènent leurs vedettes. Ouais. Des fois, c'est là qu'on peut voir, tu sais, comme j'ai eu, quand je suis allé à Munich, au salon de l'auto de Munich, j'ai vu Roger Federer. C'est le porte-parole de Mercedes-Benz. Il était sur place durant la journée média. On risque demain d'avoir effectivement certaines vedettes qui risquent d'être là, mais c'est pas ça qui m'intéresse, là, je vais être bien avec vous, là. Moi, je suis là pour les autos, là. C'est ça qui m'intéresse le plus, là. Mais ça, c'est typique journaliste automobile, là. Comme, tu sais, tantôt, je vais aller visiter un musée, le musée Peterson, en Californie, qui est réputé dans le domaine de l'automobile. Tout le monde qui est allé là me dit à quel point c'est un musée qui est extraordinaire pour les passionnés d'auto. Puis là, je suis allé, donc je vais faire le détour, là. C'est pas très loin d'où est-ce que je suis présentement, puis je vais aller faire un tour à ce musée-là. Mais il y a vraiment cette culture-là de... C'est le glam, là. T'sais, on est à LA, c'est glam. Il y a de l'argent ici, là. Je n'en reviens juste pas, là. Hier, tu sais, j'étais dans un dévoilement de véhicule pour le constructeur Genesis et on était dans un manoir à Bel Air d'une valeur de 65 millions de dollars américains. C'est 89 millions canadiens. Ouais. Mais tu sais, ça devient une démesurée.
C'est de la démesure. Puis quand tu parles de ça avec tes chums, il y en a tout le temps un qui dit « Ah, moi, là, même si j'avais moyen, je ne m'achèterais pas ça. Là. Trop de ménage. » Mais crif, tu n'auras jamais moyen de t'acheter ça, mon homme.
Jamais, premièrement. Puis deuxièmement, c'est pas toi qui fais le ménage. Ça, je peux te l'assurer. Comme, c'est clairement pas toi qui s'occupe de l'entretien de la maison, mais...
T'as beau penser que tu fais un salaire moyen là, quand tu vas à Los Angeles ou quand tu vas... Moi, c'est vraiment Vegas qui m'a marqué, là. Je raconte souvent cette anecdote-là, puis je sais pas si on s'en était parlé, toi et moi, mais sinon, t'es peut-être un des derniers à qui je l'ai pas parlé, parce que ça m'avait marqué. Je rentre dans une boutique qui est gros comme un studio de radio, un genre de 10 par 15, là, puis il y a 10 montres. C'est une boutique à Vegas. Il y a 10 montres dans la place. Je me dis, tu sais, ben les montres, ça doit appartenir à l'hôtel et tout ça. Là, je commence à regarder les montres. Moi, je connais rien à ça. Puis je porte jamais de montre. Fait que je regarde ça. Hey, une montre à 500 000 piastres. Hey, une montre à 1,2 million. Hey, une montre à 2 millions. Là, je regarde la fille, tu sais, en grand connaisseur que je suis des montres de luxe. Puis je dis à la fille, vous devez en vendre au moins 2-3 par année. Elle a dit non, 4-5 par semaine.
Hey, Seigneur, c'est capoté. Non, mais hier, j'étais avec d'autres collègues journalistes, puis on se disait juste, on n'a pas choisi le bon métier. Là. Voilà. Clairement, on n'a pas. Mais en même temps, tu sais, pour vrai, puis là, je vais sonner comme ton ami qui dit, moi, j'en voudrais pas trop de ménage, mais je me disais juste, être là-dedans, toute seule, là, ça doit être peurant. Tu sais, mettons, je sais pas, ta conjointe est partie travailler, puis là, t'es seule dans la maison un soir de semaine louche. Pour vrai, c'était peurant. C'est tellement gros, là. C'est tellement. J'ai comme perdu la notion du moment. Là. J'étais juste. Bon, là, je revenais sur Terre, on check des chars, puis la maison, ça n'a comme pas d'allure. Là, ouais. Comme ça n'a pas de bon sens. Là. Mais c'est. La démesure, l'argent qu'il y a ici, là, c'est impressionnant. Là. Il y a vraiment du monde ici qui ont plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Là.
Les ça, voitures, est-ce qu'ils étaient dans le manoir de 60 millions? Ben?
Écoute bien ça. Ils ont décidé, dans le fond, le constructeur Genesis, pour mettre un peu l'histoire puis la table, nous ont présenté hier deux véhicules. Ils nous ont présenté le GV80 2025 et le GV80 Coupé 2025. Pour les amateurs de voitures, vous connaissez déjà le GV80, qui est le VUS intermédiaire de luxe du constructeur. Genesis, c'est un constructeur coréen du Sud, bien sûr, qui est en affiliation directe avec Hyundai. C'est comme la division de luxe de Hyundai, un peu comme le Acura de Honda ou le Lexus de Toyota, si vous voulez. Et Genesis est arrivé dans le marché en 2015 comme une marque à part entière. Avant ça, c'était des modèles de voitures chez Hyundai, puis on a transformé les modèles en marque. Donc, c'est devenu une marque de luxe du constructeur. Chose impressionnante, c'est que Genesis prend beaucoup de galons dans l'industrie automobile. Pour vous donner l'idée, ça fait même pas 10 ans qu'ils sont en commercialisation, qu'ils ont déjà vendu 1 million de véhicules globalement. Et ça a pris plus de 15 ans à d'autres marques de luxe comme Lexus ou Acura avant d'atteindre ces chiffres-là. Là. Donc, 1 million de véhicules pour une marque coréenne qui vient d'arriver dans le marché, c'est vraiment impressionnant. Là. Pour le domaine du luxe, là, c'est vraiment, vraiment impressionnant de voir ça aller comme ça. Donc, l'entreprise prend une place de plus en plus importante dans le domaine. Et bien sûr, bien, pour continuer à évoluer, développe de plus en plus de véhicules. Quand on commence en 2015, il y avait un seul véhicule. Avec la présentation du GV80 Coupé 2025, on est rendu à 9 véhicules dans la gamme. Mais c'est surtout, qu'est-ce qui est impressionnant, c'est l'opulence et l'argent qu'on met dans ces véhicules-là. La présentation qu'on a fait hier, pour vous donner l'idée, c'est dans la grosse maison que je parlais, 65 millions de dollars à Bel Air. On fait venir plein de journalistes à travers le monde pour le lancement nord-américain. On arrive tout là et ils nous ont expliqué comment ils ont fait pour transporter les véhicules dans la maison parce qu'il faut savoir que la maison appartient à du monde. Puis là, présentement, cette maison est à vendre. Puis les gens qui sont propriétaires, ils ont prêté la maison, entre guillemets, aux gens de Genesis pour faire l'événement. Ils ont pris les voitures sur des grues Imaginez, là, vous êtes en Californie, dans les côtes, sur le bord des grosses montagnes californiennes. Ils ont pris les véhicules sur des grues pour les faire passer par-dessus les maisons, la maison, de, par-dessus du gros manoir. Et ils ont statué, en fait, une espèce de plateforme dans le creux de la vallée. Fait qu'ils ont bâti une plateforme avec des technopieux puis des affaires pour tenir une plateforme dans laquelle ils ont déposé deux autos. Puis nous, on était là pour couvrir le lancement. T'sais, c'est impressionnant de voir l'énergie, le temps, l'argent qui a été mis là-dedans. C'est tu sais, moi, mais j'ai pas le choix d'en revenir des fois à la base et de me dire, tu sais, je vais retourner chez nous dans mon Subaru Impreza 2010 tantôt. Là, tu sais, comme puis je suis toujours impressionné de voir ça. Là, c'est vraiment impressionnant. Puis au bout de la ligne, mais tu sais, le consultant nous a présenté deux véhicules. Le GV80 qu'on connaît déjà, qui a été mis à jour, nouvelle calandre, nouvelle roue, nouvelle colorie. On a fait quelques modifications, mais mécaniquement parlant, même affaire. On a les mêmes moteurs qu'on avait dans la version 2023. Puis on a sorti la version coupée de ce véhicule-là. C'est exactement le même véhicule, mais à la place d'avoir un gros coffre pour faire une troisième rangée de sièges assises à l'arrière, on a un coffre plus coupé pour le rendre plus sportif. Puis on a ajouté une petite système hybride électrique à l'intérieur qui va proposer 409 chevaux au lieu de 375. Fait que, tu sais, c'était intéressant. C'est des beaux véhicules. Personnellement, je les ai trouvés magnifiques. Mais c'était vraiment un gros show pour ça. Là. C'était un gros show pour deux VUS qu'on avait déjà de l'information un peu. J'étais impressionné de voir ça. Hier, je m'attendais pour vrai à ce que la marque nous présente un nouveau véhicule complètement électrique ou quelque chose de vraiment hors de ce monde avec le contexte. Faut savoir qu'aux États-Unis, les VUS, ça marche beaucoup. Hein. C'est très payant, très lucratif. Fait que ouais, je pense qu'ils ont fait un gros show pour le marché américain.
Bon, on se rappelle que les VUS au Québec, nous, on les appelle les tueurs de piétons. Là. C'est ça? C'est...
Selon certains chroniqueurs, oui.
Hey, je sais pas, on s'en est pas parlé, mais t'as-tu vu la première page du Journal de Québec, là, peut-être une semaine, où on avait un VUS qui prenait la première page du Journal de Québec. Donc, la première, quand t'arrives au dépanneur, la première page que tu vois, le dessus, là, c'était vraiment une publicité de VUS, puis en haut, tu avais une nouvelle avec le maire Marchand. Hey, le nombre de greens sur les réseaux sociaux qui ont halluciné quand ils ont vu ça, là, je riais parce que, tu sais, le Journal de Québec, il veut survivre, tu sais, puis avec raison, je veux dire, il veut continuer de suivre l'actualité, d'écrire des papiers, d'avoir des éditorialistes qui font des chroniques et tout ça, mais ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils s'adaptent, là, tu sais, ceux qui veulent placer de la publicité, ben c'est des concessionnaires automobilistes, des constructeurs, fait, mais qui prennent ça puis qui le mettent sur la première page, il y en a qui hallucinaient ben raide, surtout que là, deux semaines, ils disaient que les journalistes de ce papier là, elle disait que c'était des tueurs de piétons, les VUS. C'était comme... je veux dire, c'était irréel. Là.
Non, puis c'est un peu fade comme argumentaire, j'ai envie de dire, parce que, tu sais, de juste dire « ça n'a pas de bon sens d'avoir fait une pub », je trouve que ça donne, en tout cas, du leverage au journal pour dire « ben ma pub, elle marche », parce que les gens en parlent, puis clairement, les gens ont de l'intérêt, fait que ça marche bien dans un sens. Puis de l'autre bord aussi, tu sais, juste de dire « faudrait pas qu'on les voit dans les journaux. Je pense pas que ça va ralentir la tendance des gens à vouloir acheter un VUS pareil. Là. C'est pas parce qu'il y a une publicité sur un dessus de journal que les gens vont dire qu'ils ne voient plus, que les gens vont faire « Ah, moi, je connais pas ça, les VUS. Je sais pas c'est quoi. Je connais pas ça. » Je pense que c'est rendu ancré maintenant. Là, rendu là, c'est correct d'avoir une opinion. Je respecte le volet de « on pense pas que c'est bon pour l'environnement. » C'est correct. Je respecte ça. Il y a pas de problème. Mais je pense pas que dire que c'est de la faute de la méchante publicité sur le dessus du Journal de Québec, ça, j'ai un peu de misère.
Ah, c'était weird. Puis j'étais un peu plus attentif. Depuis que je fais des émissions avec toi ou avec d'autres chroniqueurs auto, depuis que j'essaye les véhicules chez Bernier Auto, j'étais un peu plus attentif sur les véhicules. Quand j'en essaye un, je regarde l'habitacle, je regarde la capacité de rangement, ce que je faisais pas nécessairement. Puis souvent, quand j'arrive à la station, je me parque tout le temps plus loin. Moi, j'essaie de perdre du poids en me parquant tout le temps plus loin. Puis, je regarde les véhicules. Puis, il y a des véhicules qui sont tellement petits, Sam, au niveau de juste le coffre arrière. Je peux même pas rentrer ma poche de hockey, là. Je peux pas rentrer la poche de hockey de mes gars-là. Moi, j'ai deux gars, puis des fois, je pars pour la journée au complet. Je peux pas rentrer deux poches de hockey dans le coffre, alors que si je me réfère aux années 80, 90, 2000, tu pouvais quasiment rentrer un matelas double dans le coffre en arrière pour si t'en avais de besoin. Tout est compact maintenant, tu sais. Puis peut-être qu'un jour, on sera comme les Européens, là. Tout sera hyper petit. Mais pour l'instant, pour les besoins d'aujourd'hui, je pense que pour une petite famille, un VUS, s'il le désire, ben c'est le véhicule idéal, comme les gens aux États-Unis semblent le penser aussi.
C'est un mouvement qui est très fort. Il y a des types de véhicules qui peuvent répondre à ça. T'sais, on peut penser au gabarit des familiales, les voitures familiales, les wagon en bon français.
Station wagon.
Un wagon. Il y en a beaucoup, énormément en Europe. Là,
comme dans c'est... le sapin, il y a des boules.
Oui, pis, mais il y a énormément des mais sont plus raffinés aujourd'hui, là, ces wagons-là.
Tu sais que j'en ai un à Val-Bélair, Sam, qui à toutes les Noëls, il se met un sapin. Il y a un station wagon, puis il se met un sapin sur le dessus, puis il est allumé. Là, il y a ses petites lumières, c'est de toute beauté.
Dans le coin de Charlebourg, je pense que c'est le propriétaire du IW sur Georges Mur. Il y en a un aussi, un vieux wagon avec les panneaux en bois sur le côté qui roule à l'année. Roule l'hiver, l'été, toutes les fois que je le vois, je suis toujours impressionné. Là, c'est toujours vraiment cool de voir ça. Mais ces types de véhicules-là sont moins larges, mais sont aussi profonds en coffre. Fait qu'on n'y a pas d'avoir de la place, mettons, pour soumis des poches de hockey, de croire encore en notre espèce de volumineux coffre et compagnie, mais sans avoir le côté haut du véhicule, le côté large du véhicule, qui est souvent l'élément critiqué de la part de plusieurs journalistes, dont moi-même, sur la qualité de conduite. Quand on soulève un véhicule, quand on le met plus large un peu, souvent on a une moins bonne tendance à naviguer dans les courbes. On a un plus gros transfert de poids qui se fait sentir. On a besoin d'avoir des plus gros pneus parce que le véhicule est plus gros, mais des plus gros pneus, c'est pas synonyme de confort. Des fois, au contraire, quand on a des pneus à profil bas de plus grosse taille, ça cogne dur sur les bosses, ça cogne dur sur le roulement. Fait, c'est pas toujours nécessairement meilleur en termes de capacité. C'est juste que nous, on a quand même adopté ce style-là. Parce que quand je regarde les Européens avec les familiales, eux ont conservé beaucoup ça. Ils sont axés VUS, mais les petits VUS. Eux aiment les minuscules VUS qui ne répondraient pas à ton besoin de poche de hockey, clairement. Mais quand j'étais en Europe dernièrement, tu sais, je capotais de voir les voitures wagon qui étaient là, des modèles simples, abordables, efficaces. Puis je me disais, tu sais, ça, t'en rentres des poches de hockey, il n'y a pas de stress. Tu es capable de tuer du sport dedans. Puis c'est le fun pour ça. Mais je te rejoins par contre sur l'élément que tu disais pour les familles d'ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a d'options dans le marché? Tu sais, aller voir une Mazda 3 hatchback, oubliez ça. Là. Aller voir une Corolla hatchback, oubliez ça. Là. Aller voir c'est pas des véhicules qui peuvent accueillir des poches de hockey comme ça de manière très convenable. Il faut faire des sacrifices, soit pencher un banc ou c'est pas rendu idéal tant que ça. Puis si on veut avoir de l'espace sur notre marché, la tendance est aux VUS, puis c'est vrai que c'est eux qui possèdent aussi le plus d'espace. C'est pas vrai pour toutes, là. Je pense qu'on en a déjà joué ensemble, mais tu sais, il y a des VUS qui sont basés aussi sur des voitures. On pourrait prendre par exemple Hyundai Kona, qui en réalité est un peu une Hyundai Elantra qui est surélevée dans les airs. Fait qu'on n'a pas nécessairement plus de profondeur de coffre parce qu'on est hatchback versus une Elantra qui est un modèle berline. On va avoir plus de volume de coffre dans une Elantra que dans un Kona, mais on va avoir, une fois qu'on baisse les bancs, plus de place dans le Kona. Fait que ça dépend toujours des besoins des gens, mais chose certaine, l'espèce de formule 4 roues motrices, spacieuse, sécuritaire, surtout dans l'imaginaire collectif, ça fait en sorte que les VUS ont pris la place dans le marché nord-américain. Puis tu sais, aujourd'hui, de dire on va revenir à l'époque des petites voitures avec les wagons, oubliez ça, là, ça n'arrivera pas. Là.
Non, c'est ça. Puis les plus vieux qui nous écoutent se souviennent des fameux station wagons, comme tu parlais, avec les ailes en bois. Là.
Oui.
Il y avait un banc qui était dans le coffre, mais qui était inversé. Fait que la personne qui était sur ce banc-là regardait les véhicules qui étaient derrière le véhicule. Je me disais tout le temps, mais tu sais, les tests de collision, c'est sûr que s'il y a quelqu'un là pendant un test de collision, il se fait arracher la tête. Là. Il n'y avait même pas d'appui-tête, là.
Mercedes a fait ça pendant longtemps encore. De mémoire, jusqu'en 2011, il y avait des Mercedes qui offraient encore dans les classes E. Chez Mercedes, on avait la version wagon de la classe E, puis on pouvait avoir le siège dans le coffre, le double siège dans le coffre. C'était possible d'avoir ça.
Mais il y avait l'appui-tête, là. Il y avait l'appui-tête.
Oui, il y avait l'appui-tête. Okay, les autres avaient un appui-tête, mais quand même, c'était assez impressionnant de voir ça, là, l'espèce de siège dans le coffre. Là. Je sais qu'ils ont eu une gamme de produits qui ont eu cette espèce d'assises-là. Même au Canada, là, on a eu ça chez nous. Mais tu sais, tu parles de tests de collision, puis je sais pas si tu as vu passer dernièrement avec l'Institute of Highway Safety aux États-Unis, le IIHS, qui ont fait des tests de collision un peu plus sévères. Je sais pas si tu as vu ça passer, là, mais un sujet vraiment intéressant parce que nous, on regarde beaucoup qu'est-ce qui se passe avec l'Institut, le IIHS, parce que c'est fédéral aux États-Unis, c'est gros, ils ont énormément de finances pour faire les tests qu'ils ont sur les véhicules, puis ça impacte directement nos décisions à nous chez les Transports Canada, là, ça vient un peu toujours dans notre cours, puis ils sont toujours un peu d'avance, comme c'est plus gros, puis ils ont plus de moyens, puis souvent ça transfère chez nous. Donc, ce qu'on regarde, c'est que dernièrement, ils ont peaufiné leurs tests, puis eux, cet institut-là, sont indépendants, c'est un organisme indépendant, il n'y a aucun constructeur automobile là-dedans. Puis eux, dans le fond, passent des voitures à l'essai et ont raffiné des tests de collision vraiment solides. Là. Comme là, ils ont raffiné des tests, l'impact est beaucoup plus réel encore. Chaque année, ils peaufinent, ils continuent à peaufiner. Et ce qu'on voyait dans les dernières années, c'est qu'il y avait beaucoup de voitures qui avaient la fameuse cote Top Safety Award Plus. Ça, c'est comme genre le Golden, c'est le Grammys là, des voitures en termes de collision. Quand on a ça, on a atteint comme le paroxysme de la sécurité. Ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait de plus en plus de véhicules qui l'avaient, cette cote-là. Donc là, l'organisme s'est posé des questions, puis ils ont essayé de racheter une couche de plus réelle dans leurs affaires pour voir pourquoi on a autant de véhicules qui passent. Et qu'est-ce que ça, on se rendu compte? C'est que dans les tests, et ça, moi, ça m'a complètement choqué, ils ne mesuraient pas l'impact que les passagers arrière subissaient dans plusieurs de leurs tests. Fait que ce qu'on apprend, dans le fond, c'est qu'il y a des véhicules qui ont toujours eu des bonnes cotes de sécurité, mais qui avaient des bonnes cotes de sécurité sur des critères axés sur les passagers avant du véhicule et non nécessairement ceux à l'arrière.
Là où on met les êtres les plus précieux de nos vies, c'est-à-dire nos enfants.
Et voilà. Et c'est assez... J'étais, je vais prendre l'expression anglaise, mais flabbergasté de voir ça. Là. Je capotais, ben je me disais, ben voyons donc, il me semble que vous avez une job à faire, mais c'est de s'assurer que tout le monde dans le char est en sécurité. Là. C'est ce qu'on veut savoir, c'est pas juste le conducteur. Puis, dans le fond, ce qu'on apprend, c'est que oui, ils testaient avec les mannequins à l'arrière, mais ça faisait pas partie des critères pour réussir à avoir une nomenclature comme Tough Safety Hour Plus ou quoi que ce soit. Et là, on a commencé à les peaufiner et à mesurer maintenant l'impact des passagers arrière. Puis, ce qu'on a appris, c'est que là, il y a deux séries de tests qui ont été faites avec les mini-fourgonnettes et les camionnettes pleine grandeur, les F-150, Silverado, Ram et compagnie. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des tests. On a refait passer une batterie de test à ces véhicules-là. Et dans tous les véhicules qui ont passé, il n'y en a pas un, ni aucune mini-fourgonnette, ni aucun camion pleine grandeur qui ont passé le test pour la sécurité des occupants arrière. Ils ont tous eu des notes, soit marginales, qui est comme la orange. Il y a comme quatre codes de couleurs. Il y a vert, jaune, orange et rouge, qui est poor. Et les autres ont tous eu poor. Il y a comme deux véhicules qui ont eu marginal. De mémoire, c'est le Toyota Tundra et la Kia Carnival, puis les autres ont tous eu la cote de poor, qui est vraiment la pire cote qu'on peut avoir au niveau de la sécurité des occupants arrière. Souvent, c'est une question de retenue avec la ceinture de sécurité. Ce qu'on voit, c'est que les occupants à l'arrière ont des systèmes de ceinture qui sont plus datés que ceux à l'avant. Fait que vu que les constructeurs étaient testés sur les occupants avant, on a mis des meilleurs airbags à l'avant, on a mis des meilleures ceintures de sécurité, on a comme enveloppé nos occupants avant plus que ceux à l'arrière. La beauté, par contre, c'est que ce n'est pas des mesures correctives inimaginables pour atteindre des bons résultats. Là. C'est vraiment une question de retenue de ceinture. Donc, on parle du positionnement de la ceinture, son niveau d'efficacité lorsqu'il y a un impact à bloquer, à retenir les occupants, la disposition des airbags. Donc, c'est des choses qui se corrigent relativement bien. Et l'Institut continue à dire que c'est toujours mieux de mettre des enfants à l'arrière avec un banc d'appoint sécuritaire que de placer un enfant à l'avant lorsqu'il y a un impact. Mais quand même, je trouvais que ça piquait l'imaginaire de savoir que les véhicules aujourd'hui coûtent plus cher que jamais. Puis malgré tout ça, on n'est pas capable de rendre plus sécuritaire encore nos occupants arrière, et tu l'as si bien dit, qui sont soit nos enfants. Et on dirait qu'il y avait une notion dans ma tête qui ne tenait pas en toute la route. Là.
Hey, je veux t'entendre sur le Cybertruck. J'ai vu quelque chose comme quoi, si tu avais commandé ton Cybertruck, tu ne pouvais pas nécessairement le revendre si ça ne faisait pas ton affaire. Et là, de ce que je comprends, c'est que du côté d'Elon Musk et son entreprise Tesla Cybertruck, ben, on a dit qu'effectivement, si jamais vous n'êtes pas satisfait de votre Cybertruck, vous allez pouvoir le revendre. Pourquoi on avait mis ça en place? T'sais? Parce que je sais que chez certains concessionnaires auto, entre autres Mercedes, là, j'ai un de mes amis qui s'est commandé un Mercedes bien particulier, puis il devait signer un contrat comme quoi, si jamais il voulait vendre ce véhicule-là, il n'avait pas le droit de le vendre à Québec ou au Québec, là, je ne me rappelle pas, puis peut-être qu'il permettrait de le vendre en Ontario, mais il n'avait pas le droit de le revendre ici. Se l'est commandé, il ne l'avait même pas, puis il savait déjà qu'il n'avait pas le droit de le revendre, sauf s'il passait par ce même concessionnaire-là qui, lui, allait chercher une autre cote. C'est quoi ces contrats-là? Pourquoi ça existe?
Il y a plusieurs choses là-dedans. Si je prends ton exemple de ton ami avec son Mercedes, j'imagine que la raison, que je vois, c'est le coût de commande. Ça coûte cher au concessionnaire de passer une commande exclusive comme ça, dans le sens que c'est des commandes sur mesure, la marge bénéficiaire n'est pas énormément élevée. Puis ce qu'on veut, c'est garder l'exclusivité du produit aussi. Fait que plus le véhicule est rare, plus sa valeur est élevée, donc plus on est capable de bien le revendre aussi à la suite. Puis souvent, c'est comme ça qu'on va pouvoir peut-être sauver une commande de véhicule qui n'est pas si payante que ça au bout de la ligne pour le concessionnaire. Raison d'exclusivité, raison de ne pas avoir le doublon du même véhicule sur le marché ou des choses comme ça. Mais là, on est dans le très haut de gamme dans ce cas-ci. Ça, c'est un autre game. Si on prend, par exemple, le Cybertruck maintenant, des fois, il y a une raison qui est le fameux markup, un phénomène que nous, on connaît un petit peu dans le domaine usagé, mais pas tant que ça, parce que dans le domaine neuf, c'est légiféré chez nous au Canada. Mais sachez qu'aux États-Unis, mettons qu'on a un Tesla Cybertruck en commande ou qu'on s'achète un Kia Sportage et que le modèle est extrêmement populaire, il y a une grande liste d'attente. Un concessionnaire peut dire, ben moi, le prix de base que le constructeur me le vend, c'est 30 000 $ Ben moi, j'ai appliqué un markup de 15 000 dessus, il va être 45 000 dans mon concessionnaire. Puis là, il y a des gens qui vont aller dans les concessionnaires l'acheter à 45 000 $ parce que le concessionnaire se met une grosse cote dessus, parce que la demande est élevée, puis il est sûr qu'il va réussir à le vendre quand même. Et ça, ce phénomène-là, dans la pandémie, on a vu des histoires d'horreur, là, des histoires qui n'ont pas d'allure, de gens qui ont acheté des véhicules à des markup tellement élevés que ça n'est épeurant. Là. Mais ça, on a vu ça quelques fois. Puis, tu sais, je dirais que ça a amené son lot de désagréments dans le marché. Puis, je pense que j'imagine qu'au départ, c'est un petit peu ça l'idée avec le Cybertruck, c'est que si on commence, les livraisons sont plus difficiles à avoir, on a de la misère à les sortir. On avance beaucoup, on a mis sur place des giga-usines pour réussir à les produire. Moi, j'imagine que Tesla, honnêtement, Tesla ont leurs défauts. Là, je ne suis pas un Tesla fanboy, mais je suis capable de vous dire une chose, par contre, c'est qu'au niveau de la production de véhicules électriques, ils sont impressionnants quand même. Ils ont réussi à être d'avance, ils sont vraiment là. Fait que j'imagine qu'ils vont réussir à prendre un jour un air d'aller avec le Cybertruck, mais d'ici à ce moment-là, les premières éditions qui vont sortir, si on commence à les acheter pour les revendre tout de suite, ben là, on pourrait peut-être avoir le phénomène de gens qui en achètent plus d'un pour ensuite les revendre sur le marché avec un markup très élevé.
Ah, voilà.
On pourrait pouvoir passer ce genre de revente-là qui viendrait gâcher l'histoire du Cybertruck, parce que le but, c'est qu'il soit quand même abordable. Déjà qu'il ne l'est pas tant que ça, là. C'est un véhicule qui va coûter quand même beaucoup d'argent. Je suis un peu là dans ma réflexion. Selon moi, par contre, ils n'ont pas le contrôle là-dessus. Ils ne peuvent pas décider ça nécessairement pour l'ensemble des États non plus. C'est quand même très légiféré par État.
Mais quand même, Sam, tu sais, il disait, bon, le cas échéant, si vous vendez votre véhicule puis vous faites prendre après la première année, il mettait une pénalité de 50 000 $ Si jamais vous avez pris à vendre votre véhicule en dedans de 12 mois, ben il pouvait vous intenter un procès puis vous empêcher de racheter un autre véhicule Tesla par la suite. C'est quand même assez poussé là, comme demande. Là.
C'est extrêmement poussé, puis tu sais, je comprends, honnêtement, mais je pense que c'est vraiment la revente de prix qui était là. Tu sais, on sait que c'est un véhicule qui est extrêmement attendu, qui fait beaucoup jaser, puis ça serait vraiment le genre de véhicule à créer des scénarios qui n'ont pas de bon sens. Là. Au niveau des prix, là, on pourrait voir vraiment la revente qui exploserait. Puis le problème, c'est qu'on ne veut pas que le marché de la revente soit plus efficace que le marché neuf. Comme on commence à lancer ce produit-là, on ne veut pas non plus que la revente devienne supérieure en quantité que ce que le constructeur peut lui-même fournir. Donc là, on aurait un problème d'offre et de demande, on créerait des débalancements au niveau de l'offre neuf, de l'offre usagée, il y aurait des mark-up qui se créaient, ça pourrait créer vraiment un problème. Je trouve ça intense, là, le 50 000 $ là, moi, je trouve ça vraiment intense. Je sais qu'on avait déjà vu d'autres constructeurs faire ça à l'époque, là. Puis j'ai une histoire vague dans ma tête de la Ford GT. Quand on avait sorti la nouvelle génération de la Ford GT, la voiture de course, Ford avait fait exactement la même chose pour ne pas créer justement une espèce de débalancement au niveau des markups, une voiture de course emblématique du constructeur, puis on ne voulait pas créer ce même phénomène-là, donc on avait mis à peu près les mêmes clauses, puis ça ressemblait beaucoup à ça, mais c'était vraiment axé sur la revente puis la distribution des véhicules neufs. Avant d'avoir une revente dans l'usager, il faut que le neuf soit supérieur en quantité sur la route. Fait que c'est un peu là le débalancement qu'on ne veut pas créer. On ne veut pas que l'usager prenne le dessus sur le neuf parce que là, les prix n'auront juste plus jamais de bon sens.
Non, c'est ça, effectivement. Puis le Cybertruck, il y a. C'est rare les gens qui disent ben moi, ce véhicule-là me laisse complètement indifférent. Là. J'entends plus souvent des wow, tu sais, ça a l'air capoté, puis j'ai hâte de l'essayer. Ou mon Dieu, c'est donc ben laid. Tu sais, il y a comme deux camps qui sont opposés, puis ceux qui sont au centre n'existent pas. Là.
Non, c'est très partagé. Je vais attendre de l'essayer, de le voir, de faire ma job de journaliste avant de me prononcer sur ce truc-là, parce que là, on voit juste passer des images ou des gens qui en parlent ici et là. Je voyais passer une vidéo pas plus tard qu'hier là, d'un Cybertruck qui n'était pas capable de monter une petite colline de bouettes quelque part dans le monde, puis c'était filmé avec un téléphone cellulaire. Puis là, tu voyais le Cybertruck qui était juste pas capable de monter, qui patinait. Mais c'était-tu un véhicule de test en production, là, comme un an, une vieille vidéo qu'on a sortie ou de. On va attendre de voir le véhicule arriver, mais tu l'as vraiment bien dit, c'est un véhicule polarisant. Il y a des gens qui l'aiment, des gens qui se font un plaisir malin à le détester, et ça, je pense que c'est intéressant de voir ça. Dans tous les cas, c'est un coup de circuit pour Tesla. Là. Jusqu'à présent, là, l'espace médiatique qu'ils ont pu avoir grâce au Cybertruck, y a aucune entreprise, je pense, qui a réussi à faire un aussi gros coup d'éclat que ça. Là. Ça fait 3 ans qu'on en parle du Cybertruck, qui n'est même pas encore construit, qui n'est même pas encore livré. Là. Ça fait 3 ans qu'on parle d'un véhicule, puis que dès qu'il y a une petite nouvelle qui sort, là, vite, 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 on sort un article, on met des photos. Moi-même, j'ai écrit un article sur le site d'RPM de photos espionnes en direct de l'usine, où on voyait la grosseur du coffre, puis... C'est fou, là. C'est fou raide, ce véhicule-là.
Est-ce que tu vas, quand tu vas l'essayer, est-ce que tu as l'impression que c'est le genre de véhicule qui pourrait te faire plaisir puis l'avoir jusqu'à la fin de tes jours?
Aucune chance. Aucune chance. C'est vraiment pas mon genre. Je suis vraiment pas dans ce genre de gabarit-là. Pas du tout. Là. Je pense vraiment pas avoir d'office une attirance envers ce véhicule-là. Mais j'aime les designs audacieux. Je suis la personne qui n'a pas trouvé l'aile le Nissan Juke et qui ne trouve pas l'aile à Kia Soul. Je suis de ces personnes-là. Très assumé, hein, tu sais, comme oui. Je dors avec ça tous les jours, avec cette décision-là. Mais moi, je les aime, ces produits-là, parce qu'ils sont différents. J'aime les choses qui step up un peu plus dans l'univers. Ça, je trouve ça le fun. Je ne suis pas un fan du Nissan Cube, avant que tu m'en parles. Non, c'est pas un véhicule qui m'a charmé.
La Juke? Mais... La Juke?
Le Juke, là, honnêtement, là, je l'ai trouvé... Et puis, 1.8 litres turbo, se faisait en manuel, ce véhicule-là, en plus. C'était pépi, quand même, c'était le fun. On avait un peu de plaisir derrière ce volant-là. C'était pas gros, il y avait un beau petit camber sur les roues en arrière. Ça se conditionnait bien, un Nissan Juke. J'ai vraiment pas haï ce véhicule-là, vraiment pas.
Hey Sam, on va faire une courte pause juste avant de faire la pause. Juste rappeler aux gens, bon, on peut te retrouver régulièrement sur les ondes de Boulevard en tant que chroniqueur auto, Samuel Tremblay-Michaud, mais on peut te voir aussi à d'autres endroits, on peut te lire à d'autres endroits.
Oui, absolument. Vous allez pouvoir me suivre sur ma chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne-là. Je mets beaucoup d'amour de ce temps-ci là-dessus, puis c'est très important pour moi. Samuel Tremblay-Michaud, journaliste automobile sur YouTube. J'ai mes radios sur Facebook, bien sûr, et sur le site de RPM, bien évidemment, rpmweb.ca. J'écris régulièrement de la nouvelle et des essais routiers pour RPM.
Je rappelle qu'on est avec Samuel Tremblay-Michaud. Il est en direct de Los Angeles. Il nous agace un peu avec son bonheur ces temps-ci, là, mais il s'en va faire un travail très important, celui de chroniqueur automobile au Salon de l'Auto de Los Angeles. On en parle encore une fois après la pause. Restez là.
Marceau le soir.
Marceau le soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, 2 adresses pour vous servir. Boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
102.1 Boulevard, fier de vous présenter le nouveau rock. Måneskin, honey, are you coming? Consultez notre sélection musicale et votez pour les nouveautés et les radars au blvd.fm ou sur l'application mobile.
Les journées raccourcissent et le temps des pneus, c'est maintenant chez Kennedy Pneus et Mécaniques. Pensez à prendre votre rendez-vous. Obtenez le financement jusqu'à 3 mois sans frais ni intérêt sur tout achat de pneus et réparations mécaniques. Kennedy Pneus et Mécaniques.
Faites-nous confiance et roulez en toute sécurité.
Je fais mon budget en ligne. Poum, poum, c'est fait. Je paye ma carte de crédit, facile de même. Je fais un nouveau placement, déjà fini. Et je retourne à mon film. Merci, bonsoir.
Gérez vos finances comme une virtuose avec les services en ligne et mobiles Desjardins. Téléchargez notre appli ou visitez desjardins.com.
Pam, padadam, pam, pam.
Le Québec se développe et a de grands projets de construction. Pour les réaliser, on a besoin de gens formés et motivés. Inscris-toi dès maintenant au nouveau programme de formation de courte durée et profite d'une aide financière. Ça te mènera vers un emploi valorisant. Ça t'intéresse? Ne perds pas de temps. La formation débute dès janvier. Visite lequebec.ca/emploi-construction pour t'inscrire. Fais avancer ta carrière. Choisis les métiers de la construction. Québec.ca/emploi-construction. Un message du gouvernement du Québec.
Peu importe que vous soyez du style Noël rustique ou chic, retrouvez tout pour tous les goûts chez Floralie Jouvence. Floralie Jouvence, le plus beau magasin de Noël à Québec et Lévis.
Pendant que vous pensez changer de camion, il y a un Chevrolet Silverado 1500 Custom quelque part qui se promène dans le bois puis qui profite de l'automne. Puis s'il y a un Chevrolet Silverado 1500 Custom quelque part qui se promène dans le bois puis qui profite de l'automne, c'est parce que quelqu'un quelque part a arrêté d'y penser puis qui a changé de camion. Puis vous, vous attendez quoi?
Passez à l'action et profitez de l'automne avec le Chevrolet Silverado 1500-2023. Les membres de Costco admissibles obtiennent une prime de 750 $. Visitez votre concessionnaire Chevrolet dès aujourd'hui. Les conditions s'appliquent. Détails à offrechevrolet.ca.
Un escalier à refaire? Chez Limaco, on tripe sur le bois depuis 25 ans. En novembre, obtiens 20 % de rabais sur nos stocks de marche et contre-marche en merisier naturel. Oui, 20 % sur des prix déjà imbattables. Composants d'escalier et transformation sur mesure aussi offerts.
Un nom à retenir, limaco.ca.
Le Centre de formation professionnelle de Lévis t'attend en janvier pour débuter ton DEP en électromécanique de système automatisé en alternance travail-études. Taux de placement à 100 %. Devenir électromécanicien grâce à des installations de haute qualité, ça commence à taformation.ca.
À Boulevard 102.1, la semaine, on vous jase de tout ce qui se passe dans votre ville et ailleurs.
Côté actualité, un autre gros matin.
On le fait-tu ou on le fait pas? Il va déjà y avoir plus $1 milliard d'investissement.
On supporte et on épouse la cause.
Puis on joue du rock. La fin de semaine, ben, on joue plus de rock. Le samedi de 8 à 21h, on est all in anglo avec le meilleur rock de la business.
Boulevard 102.1.
Les sujets, ton rock, ta radio.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir. Boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Samuel Tremblay Michaud est avec nous ce soir. Il reste encore quelques minutes, Sam. Bon, on rappelle que tu es en direct du Salon de l'Auto de Los Angeles. Je pense que c'est de la misère humaine là, que tu vis actuellement. Ça doit pas être facile. On est tous de ton côté. On t'envoie de l'énergie positive. Ils te font dormir où? Hein? C'est-tu cher, les chambres d'hôtel, là-bas?
J'ai même pas regardé sur Internet comment ça coûtait la chambre où est-ce que je suis. J'ose même pas regarder. C'est ça que je veux vous le dire, OK? Je veux vraiment que ça soit clair pour tout le monde, là, mais, tu sais, moi, je suis monté prendre l'avion à Montréal avec ma sandwich de beurre de peanut, mon café que j'ai fait chez lui dans ma machine, dans mon Subaru 2010, OK? Je veux juste qu'on s'entende tout le monde là-dessus à la base parce que moi, je fais ça. Ce que je fais là, d'être là, je suis content de le faire pour vous parler des produits qui s'en viennent puis de faire un peu le suivi des véhicules qui vont être importants pour nous au Québec. Oui, c'est ça ma mission, puis c'est ça que je veux faire.
Mais tu comprends qu'on peut pas appeler ça un chemin de croix, là? Hein? T'as pas de l'air à souffrir, t'as pas de couronne d'épines autour du plaisir.
C'est ça l'affaire. Je veux pas non plus passer comme la personne qui est dans la misère. Je le suis vraiment pas. Oui, je l'apprécie là, de pas être dans la misère, c'est vraiment agréable, mais sachez que je ne carbure pas à ça. C'est important de vous le dire parce que je pense que c'est un milieu, puis là, j'extrapole, mais je pense que c'est un milieu qui est nourri par ce genre d'expérience-là, puis c'est correct, mais c'est pas pour ça que je le fais. Mais oui, je l'apprécie, là, tu sais, je suis en Californie aujourd'hui, puis j'ai vraiment sorti de mon quotidien, c'est complètement nouveau ce que je vis, puis c'est trippant, là, je peux pas vous cacher que c'est le fun d'être ici, là, c'est clair.
Mais, tu sais, ce que t'expliques là, moi, je le comprends, mais, tu sais, les auditeurs de Boulevard t'apprécient beaucoup, moi, je vois les messages passer à chacune de tes présences, puis effectivement, ces gens-là se reconnaissent en toi, puis quand tu conseilles des véhicules, ben souvent, les auditeurs apprennent beaucoup de choses, puis certains qui sont propriétaires de ces 10 véhicules-là mentionnent, tu sais, tabarouette, c'est vrai, ce char-là, Sam en a parlé, c'est un char qui me fait triper. Mais tu as des goûts un peu douteux pour certains véhicules, là, on s'en parlait un petit peu avant la pause, là, le joke, là, moi, je regardais ce véhicule-là, je me disais, mais comment que des constructeurs ont dit, hey, ça va se vendre à pelleter, ou le cube, ça va se vendre à pelleter. Vous êtes de drôles de zigoto, vous, là.
En fait, une édition de Nismo, hein. Nismo, qui est la division de sport de Nissan, du joke. Nismo, là, c'est comme, pour les amateurs de voitures, là, c'est, mettons, la fameuse GTR Godzilla Nismo, là, c'est des voitures de course japonaises. C'est comme un peu la division AMG chez Mercedes, mais version Nissan, c'est du Nismo. Oui. Puis en fait, l'édition Nismo du joke, hey, ça tirait, ce véhicule-là, là, ça avait de la sauce, là. Impressionnant, comment ils ont mis de l'amour dans cette voiture-là. Je vous le dis, je l'ai pas haï, mais je comprends que c'est polarisant. Tu sais, je peux pas convaincre les gens que... Les gens qui l'aiment pas, l'aiment pas. Les gens qui l'aiment, ils l'aiment. Un peu comme le Cybertruck jusqu'à présent. Des gens qui sont en amour avec ce véhicule-là, okay. D'autres qui le détestent à mourir. Mais ça fait partie des véhicules qui vont marquer, vois-tu? On va s'en souvenir du Nissan Juke. Moi, je vais m'en souvenir, en tout cas.
Alors, c'est ça. Mais tu vois, je regarde un Nissan Juke Nismo RS 2017, là, puis au-dessus du haillon, ils ont mis des genres d'ailerons. Bon, moi, j'achèterais pas les ailerons, là, mais tu sais, il est noir, moi, il est de toute beauté, là, tu sais, il est de toute beauté, mais...
Écœurant, puis tu sais, on avait quand même une bonne motorisation pour vrai là-dedans. On allait quasiment chercher du 200 chevaux. C'est 211 chevaux et 184 pieds-livres de couple. C'est assez intéressant. Vraiment, là, pour un petit véhicule, c'est pas gros, là. C'est un tout petit véhicule, fait que c'est impressionnant les performances qu'on avait là-dedans, là, vraiment. Là. C'est ça, puis je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui m'écoutent qui ont un Nissan Juke, parce que les gens qui ont acheté des Nissan Juke les ont vraiment beaucoup aimé leur véhicule. On a connu des ratés avec la fameuse transmission CVT, là, ça c'est classique dans ces années-là, Nissan, la CVT a eu beaucoup de bobos là, dans toute la gamme de véhicules, là, sur les Sentra, les Versa ou les Rogue ou compagnie. Là. C'est une transmission qui est réputée pour avoir eu des problèmes et le Juke ne fait pas exception à ça. Mais il y avait des versions manuelles aussi qui existaient. Chose certaine, c'est que les gens qui sont bien entretenus, qui ont fait attention quand même à leur transmission aussi, n'ont pas eu gros problèmes avec ces voitures-là. Puis c'était un rapport qualité-prix qui était là. C'était pas si dispendieux que ça. Hey, on monte de pas si longtemps, là, ça coûtait quoi, 20 000? 20, 21 000 avoir un Juke? Ça avait un moteur 1,8 litre turbo, là, tu sais, t'avais pas... t'étais pas dans la rue, là, sérieux, là. Fait que aujourd'hui 20 000, là, il reste plus grand-chose, là. On commence à avoir fait le tour, là.
Exact. C'est juste que quand t'es dans un Juke, tu juges qui? Tu juges-tu les propriétaires de coccinelles, mettons? Qu'est-ce qui te reste à juger quand t'es dans un Juke, tu sais? Je me pose toujours cette question-là.
Je pense pas que t'achètes un Juke pour juger le monde. C'est un peu...
Ah, tu sais, quand ils ont ressorti les nouvelles coccinelles, là, j'avais une collègue, Camille, que ça m'entend, elle va m'arracher la tête. Mais un autre de mes collègues avait été chez Canadian Tower, puis avait acheté des cils pour mettre sur le véhicule, puis on avait pris ça en photo, puis on y avait envoyé. Elle était hors d'elle, tu sais.
Ah oui, non, des cils, ça fait pas pantoute ça. Je m'excuse, là, mais là-dessus, je vais être catégorique. Là, les cils, ça fait pas. Vous avez le droit au bonheur, OK? Mais là-dessus, j'ai un jugement.
Les faux trous de balle aussi. Tu sais, que tu peux acheter, c'est Canadian Tower en collant, là.
Je veux aussi le petit sac de billes là, qui se pend deux ou les boules de pick-up. Là, je sais pas si
c'est... Non, ça, tu juges pas ça. Là. Ça, c'est parfait, ça. C'est en bas, ça. On voit ça. Ça, c'est correct, ça.
Ça va, hein?
Mais les trous de balles, là, quand tu te promènes à Vanier avec ton vieux Hyundai Accent avec des trous de balles dedans, tu dis OK, c'est correct. Hey, est-ce que à Los Angeles, est-ce qu'on parle un peu de la grève dans l'industrie automobile?
C'est tabou. On n'en parle pas, c'est un peu sous silence, dans le sens que ça a été un gros moment pour l'industrie automobile. Puis, tu sais, au début de la grève, les syndicats parlaient d'une grève historique, on va faire une grève historique. Puis, je pense qu'ils l'ont fait pour vrai, parce que ça l'a fait beaucoup de chemin dans le monde. Les usines présentement en Europe, en Suède, en Allemagne, Tesla vit des pressions présentement majeures en Allemagne sur des syndicats qui veulent rentrer chez Tesla. Et Tesla ne veut absolument pas avoir de syndicats dans leurs usines. Donc, ça a fait beaucoup de mouvements à travers le monde. Puis au bout de la ligne, tu sais, peu importe le parti que vous prendrez, les travailleurs ont eu gain de cause, dans le sens qu'ils ont réussi à avoir des conditions meilleures que qu'est-ce qu'il y avait actuellement. Et,
au début, ils demandaient 40 % d'augmentation de salaire. Là, tabarouette.
Une grosse augmentation, tu me diras, mais je ramène un point. Mettons, tu achètes un GMC Sierra aujourd'hui, là, tu vois, chez le concessionnaire, tu achètes un Sierra ordinaire, là, pas trop équipé avec un 5.3, là, genre le pick-up classique.
Ouais.
68 000, soit 62 000, 68, 65, c'est rendu tellement dispendieux un véhicule aujourd'hui que les constructeurs automobiles, il faut savoir qu'ils s'en mettent plein les poches. Puis ça, je pense que c'est important de le mettre en évidence. Là. Les constructeurs, je vais le répéter, mais s'en mettent plein les poches, là. Vraiment beaucoup. Là. Donc, c'est pour ça que c'est un peu un sujet tabou actuellement. J'espère, du moins, parce que tu sais, j'ai pas vu tout ce que les employeurs, mais les employés ont pu avoir dans leur entente, mais j'espère que du moins cette convention-là va leur donner juste valeur parce que tu sais, ces véhicules-là existent parce qu'il y a des gens qui travaillent là. Puis tu sais, vous avez beau me dire, oui, mais il y a des robots, oui, il y en a des robots, là, mais il y a des usines qui lancent des robots, ils ont des problèmes de configuration. Moi, j'ai visité l'usine de Shawa en Ontario de GM où est-ce qu'ils construisent le Silverado. Puis tu sais, quand j'ai visité, il y avait des robots qui étaient en arrêt parce qu'il y avait des problèmes. Puis là, il faut remettre vite du monde au poste parce que là, la chaîne est toute brisée à cause de ça. Tu sais, les robots sont là, c'est impressionnant de voir aller les soudures qu'ils peuvent faire, la capacité qu'ils ont là-dedans, mais il y a des emplois qui ne peuvent pas être remplacés. Et tu sais, quand j'allais visiter l'usine, là, c'était beaucoup de monde qui était là, qui travaillait là. Puis tu sais, ces gens-là, c'est leur gang-pain de produire le prochain pick-up. Puis au prix que les constructeurs le vendent, je pense que demander un petit peu mieux de conditions de vie, je pense pas que c'était c'est mon éditorial du jour, mais je pense pas que c'était exagéré. Chose certaine, c'est que là, ça a brassé dans l'univers automobile. Puis aller, je vais aller demain à l'événement de presse, je vais le vivre demain officiellement. Est-ce que demain il va y avoir une répercussion de ça? Est-ce qu'on va vivre quelque chose par rapport à ça? Peut-être, mais jusqu'à présent, là, on fait tout au possible des constructeurs pour pas qu'on en parle.
Sam, il reste 4 minutes à peu près à jaser, toi et moi. Les véhicules que tu vas aller voir lors de ton apparition au salon, ça va être quoi pour les gens de Québec?
Je vais aller voir deux produits qui m'intéressent fortement. On a dévoilé hier la toute nouvelle Toyota Camry qui vient tout juste d'être dévoilée. Pourquoi je dis qu'il m'intéresse fortement? C'est que c'est une berline, c'est une voiture qui est réputée, qui a une belle place dans l'automobile aussi. Et tu sais, tantôt, on parlait d'espace. Là. T'en veux-tu de l'espace en vous?
Ouais, c'est ça. Puis moi, souvent, je regarde quand je veux savoir c'est quoi les véhicules qui sont tough ces temps-ci. Je regarde les véhicules de nos chauffeurs de taxi à Québec, puis c'est tous des Toyota Camry.
Oui, énormément. Ben oui, c'est fou comment ils prennent la place comme vraiment importante. Fait que tu sais, la Camry est vraiment un véhicule qui va être intéressant à suivre. Subaru vont avoir le Forester. J'ai entendu dire ça entre les branches. Donc, j'ai bien hâte d'aller voir le Forester également, qui est un produit que j'apprécie pour nos conditions chez nous énormément, qui est un des plus gros joueurs dans l'industrie actuellement, du moins chez nous, clairement. Un autre véhicule que j'ai très, très hâte de voir, c'est le Hyundai Santa Fe de nouvelle génération. On a déjà montré les premières photos. Je ne sais pas si tu les as vues passer il y a quelques mois, mais écoute, ça a l'air d'un Land Rover. C'est comme dans des courbes. C'est carré, là. Un véhicule carré avec une espèce d'espace intérieur. On veut le rendre très axé sur l'aventure, même avec une raille de toit pour mettre une tente sur le dessus. On a l'air de vouloir vraiment convertir la mission du Santa Fe. J'ai hâte de voir les versions qui ne seront pas les plus extrêmes. Théoriquement, on va être capable de peut-être avoir des versions plus d'entrée de gamme.
Okay. Toi, tu parles de 2024-2025?
2025. OK, je vais aller. J'ai hâte de voir, dans le fond, le 2025, parce que selon moi, ça va être un joueur important, ça l'est déjà. Mais j'ai surtout hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ce véhicule-là, parce que j'ai comme peur qu'il soit devenu un peu trop luxueux, justement, tu sais, qu'il devienne très cher au niveau des prix. J'espère pas. Tu sais, j'espère qu'on va avoir encore une version pour les familles du Québec qui veulent avoir une voiture avec une bonne garantie, spacieuse et pas trop dispendieuse.
Ouais, ça va être une belle bête, là, le Santa Fe 2025.
Écœurant, moi, je suis fan du design. Au début, je n'étais pas certain de l'arrière. À force de voir des photos, à force de mettre un peu le véhicule devant les yeux, j'ai pris l'habitude. Puis honnêtement, je le trouve magnifique. Je suis rendu là actuellement.
Ah, puis il y a des couleurs qui sont particulières aussi. Je ne sais pas si ça va être des couleurs qui vont être disponibles au Québec, là, mais un genre de...
Saumon?
Ben c'est ça. Ben pourquoi tu sais ça?
Parce que je connais un peu.
Tu l'as vu? Ouais, tu connais un peu le produit. Le saumon, il était écœurant, là.
Oui, vraiment, ça va vraiment être sympathique de voir ça. Puis bien sûr, ben, moi, je reste à l'affût aussi des produits qu'on aime. On aime les pick-up dans la région de Québec aussi. On en a des pick-up ici. Je vais aller voir les trucks, on voit ce qu'on est rendu, c'est quoi les prochains modèles qu'on va avoir. Ford a présenté aussi une prochaine Mustang qui s'en vient. Puis Toyota, une prochaine Mustang, on l'a déjà vu, mais des éditions spéciales qui s'en viennent. Et Toyota a aussi parlé du Crown VUS. Le Crown, c'est une voiture surélevée qu'on a sortie chez Toyota, une grosse berline avec une motorisation hybride. Qui a l'air à prendre, qui est magnifique. J'ai trouvé son design magnifique. On l'a vu passer l'année passée. Ça fait déjà un an qu'elle est en vente. Mais là, on a le VUS de cette version-là qui s'en vient aussi pour prendre la place du fameux Venza, un VUS intermédiaire qu'on aime beaucoup. Surtout, on a beaucoup aimé dans sa première nomenclature. La deuxième, on a moins accroché au Québec. Mais au départ, on l'a vraiment aimé beaucoup, ce Venza-là. Donc, j'ai hâte d'aller voir ça. C'est de nouveaux produits qui s'en viennent et qui font partie des véhicules que on achète dans notre coin. Là.
Parfait. Puis ton retour du salon de l'auto de Los Angeles, tu vas mettre ça où? Ça va être sur ta chaîne YouTube?
Il va l'avoir sur le site de RPM Web. Si vous voulez suivre RPM tout ce qui Web. Va se passer là, ça va vraiment être sur la page Facebook d'RPM, sur le site web d'RPM. Moi, je suis là pour l'équipe d'RPM. Fait que ça ne sera pas sur mon YouTube parce que je suis là pour travailler avec l'équipe de RPM. Là, mais quand je vais revenir, je vais faire un recap par contre. Puis j'ai des projets aussi de continuer le roadcast. Je veux continuer le podcast, je veux continuer à avancer des trucs. Fait que j'ai des petits trucs à vous annoncer prochainement aussi. Là.
Puis ton podcast, il est excellent, soit dit en passant. Là. Moi, j'en ai pas raté un. Puis même des gars de hockey qui m'en ont parlé. Là. Fait que ça fonctionne ton affaire, mon ami. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur les zones de Boulevard. Puis lorsque tu auras du temps, ben, tu viendras nous voir en studio. studio, que ce soit pour Marceau le soir, que ce soit pour Marceau le midi ou bien les autres, ils veulent toute une petite portion de Samuel dans leur show. Fait que on va être obligé de se battre à un moment donné pour toi.
Non, mais écoute, je suis tellement content. Merci pour ton temps. Moi, je trippe bien gros. Vive Boulevard!
Salut, mon ami. Merci.
Allez, bye-bye.
On se laisse là-dessus. On s'en jase demain vers les alentours de 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Passez une excellente soirée. Bye-bye.
Marceau le soir.
Le vendredi 17 novembre, 19h, c'est le match Maxi au Centre Vidéotron. À l'achat de produits vedettes en épicerie, obtiens un match des remparts gratuit. Ben oui, gratuit pour toi et un de tes amis. Faites vite, les quantités sont limitées. Le vendredi 17 novembre, 19h, c'est le match Maxi des remparts de Québec.
L'hiver peut être tough des fois. Pour l'affronter en sécurité, je choisis un Rogue de Pocket Nissan, Saint-Nicolas-Nissan et Montmagny-Nissan. En location 24 mois à partir de 399 $ par mois avec léger comptant, le Rogue est attraction intégrale mort dans la neige et encore plus avec les pneus d'hiver gratuits. Et si vous préférez passer à un véhicule 100% électrique, montez dans une surprenante Leaf ou une splendide Ariya prête pour livraison. Détails pendant l'événement, là c'est Nissan chez Pocket Nissan, Saint-Nicolas Nissan et Montmagny Nissan.
Avant, quand on entendait parler d'itinérance, ça se passait juste dans les grandes villes. Mais j'aurais jamais pensé que chez nous, dans ma municipalité, on se mettrait à avoir de plus en plus d'itinérants. Puis qu'un de ceux-là, ça serait moi.
Avec les problèmes d'itinérance, de réchauffement climatique et de crise du logement, le rôle des municipalités est appelé à changer. Plus que jamais, le gouvernement municipal en est un de proximité. Sa mission? Être au front pour répondre à vos besoins et trouver des solutions. Un message de l'Union des municipalités du Québec.
Mettez à profit votre expertise dans le domaine de la construction. Le Centre des services scolaires de la capitale recrute des personnes issues du milieu de la construction pour enseigner la charpenterie, menuiserie, ferblanterie, conduite de machinerie lourde, électricité et réfrigération. Postulez au cssc.gouv.qc.ca.
Vous en avez jamais assez de vos animateurs préférés. Réécoutez les meilleurs segments des shows sur le blvd.fm et sur l'application.
Électrisant, énergisant, percutant, c'est le novembre foudroyant chez Vidéotron. Profitez d'averses de rabais qui arrivent et repartent à la vitesse de l'éclair sur des produits coup de foudre comme le Galaxy S23 FE de Samsung à 0 $ par mois avec crédit retour, avec certains forfaits de 24 mois. En plus, obtenez un crédit foudroyant de 150 $ en jumelant certains forfaits mobiles et l'Internet. Offre d'une durée limitée, certaines conditions s'appliquent. Détails au vidéotron.com. Vidéotron.
Économisez avec des rabais fous chez Sale. Obtenez jusqu'à 50% de rabais sur plus de 55 marques et des milliers de produits. Préparez-vous pour des rabais fous sur une sélection de manteaux, de bottes d'hiver et d'équipements. Sale, la plus grande destination plein air 100% québécoise.
Chaque jour, plus de 4 millions de Canadiens luttent contre l'arthrose. Mais pour Mathieu, chaque pas est devenu une victoire grâce à Génacol antidouleur. Ce produit naturel, cliniquement prouvé, soulage les douleurs articulaires en seulement 5 jours. Comme Mathieu, retrouvez le plaisir de bouger avec Génacol antidouleur, le supplément pour la santé articulaire le plus vendu au Canada.
Génacol antidouleur est en promotion chez Proxim jusqu'au 15 novembre. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
Génacol, tu me fais du bien.
Boulevard.
Cet automne, Boulevard vous parle un peu plus.
Mais YOLO!
Non, vous abandonne pas non plus sur le rock.
C'est ça, rock!
Un genre de meilleur des deux mondes.
Rage Against the Machine,
ECV,
Marceau le midi,
Ravel dans le retour,
Marceau le soir,
sans oublier le rock and chill,
Boulevard du rock,
il volume à planche.
Boulevard 102.1.
Tes sujets, ton rock, ta radio.
C'est l'heure. L'heure que vos haut-parleurs redoutent. Voici Max Larouche, le volume au max.
Oh, ça c'est du rock.
Excellent mercredi. Cette fois, c'est vrai. 15 novembre, parce que ouais, hier, j'ai commencé le show, ça a l'air en vous souhaitant un bon mercredi soir. On était mardi, j'étais visiblement un peu mêlé, mais là c'est vrai, on est dans le fameux nombril de la semaine. On va en rester juste 2 jours de paye demain pour certains. C'est toujours une journée qui fait du bien, puis le jeudi, ben on s'approche de la fin de semaine, puis le seul vendredi, ben ça passe full vite. Fait que là, on va avoir du fun ce soir. Je regardais les tunes que j'ai à vous offrir, puis pas mal comme d'habitude. Ouais, c'est du solide. Peut-être même particulièrement un peu plus ce soir. Là. J'aime bien ce que j'ai pour vous. Puis on va lancer ça tout de suite. On niaisera pas plus que ça parce qu'on a une grosse première séquence rock qui tombe direct dans mes cordes. The Offspring, Green Day, Third Eye Blind, Imagine Dragons, The All-American Rejects. Et la première, je vais la dédier à mon collègue pour la semaine en remplacement de Reg Laplanche, Mathieu Marcotte, Weezer avec Records à Boulevard. I hear records in my head everywhere that I go. I've got records in my head spinning out of control. They go round and around and again, round and around and again, round and around and oh yeah. Pillow drumming on the sofa. I keep on rocking past the coda. And even if the world is ending, as I go out, you'll hear me sing.
Giving in down. nothing ever comes out of consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Somebody, let me see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of wood without the peace, face a bit of the truth.